Bah, c'est un sujet qui est passionnant, donc on peut ne pas s'arrêter.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce premier épisode d'Open Impact, la parenthèse positive de Futura dédiée aux innovations qui changent le monde. Santé, énergie, tech, agriculture ou encore mobilité, à chaque épisode, nous explorerons les grandes thématiques de la société d'aujourd'hui et de demain, et nous nous demanderons comment les chercheurs, les entrepreneurs et les citoyens peuvent agir ensemble pour élaborer des solutions de la recherche à l'usage. Je suis Emma Hollen, journaliste scientifique chez Futura, et aujourd'hui je reçois Frédéric Vacher, directeur innovation chez Dassault Systèmes. Bonjour Frédéric.
Bonjour Emma, bonjour à tous.
À mes côtés, je reçois également Gilles Garel, expert en management de l'innovation et professeur titulaire de chaire au CNAM. Bonjour Gilles.
Bonjour Emma, bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Alors Gilles, commençons si vous le voulez bien par définir le concept même qui va articuler cette série. Qu'est-ce que l'innovation et qu'est-ce qu'elle signifie en 2021 ?
Alors, bon, on n'a pas évidemment attendu 2021 pour parler d'innovation, c'est une question qui est ancienne, mais aujourd'hui c'est vrai que c'est très tendance, tout le monde en parle d'ailleurs presque un peu trop parce que tout peut être qualifié d'innovant. On peut dire qu'une innovation, c'est une façon nouvelle ou améliorée de créer de la valeur pour des clients, pour des utilisateurs, pour soi-même, et puis quand l'innovation se diffuse, pour la société. La notion de valeur est centrale, qu'il s'agisse de valeurs marchandes, de valeurs d'usage. Alors évidemment, les valeurs ne sont pas les mêmes en 2021 qu'après la seconde révolution industrielle, par exemple, ce qui doit nous interroger sur nos nouvelles définitions collectives du progrès face aux défis que nous affrontons. Il y a beaucoup de tendances qui affectent aujourd'hui l'innovation et dans le cadre de notre échange, il semble important de souligner les notions d'innovation ouverte et de recherche ouverte. Là, on est donc du côté des innovateurs, des entreprises, de ceux qui fabriquent l'innovation et il s'agit bien de s'ouvrir, d'élargir pour ces entreprises les sources de l'innovation en ne travaillant plus seulement avec ses écosystèmes traditionnels, par exemple avec ses fournisseurs, ses partenaires ou ses clients, mais avec des acteurs nouveaux, voire improbables. Et je prendrai un exemple lors de mon dernier voyage. J'avais la chance d'être au Cirque du Soleil à Montréal et j'allais à la rencontre d'acrobates qui cherchaient à innover dans la performance acrobatique, dans la performance des shows. Ces gens-là travaillaient à ce moment-là avec des spécialistes des rayons laser de manière à définir des nouveaux environnements, des nouvelles scènes. Et c'est totalement improbable si on reste centré sur le milieu de l'acrobatie. En revanche, si on veut construire une rupture, une nouvelle expérience, il faut bien s'ouvrir à ces environnements inhabituels. Voilà quelques éléments de repère.
Donc l'innovation, c'est avant tout créer une valeur pour soi ou pour les autres. Elle s'enrichit dans la transversalité en confrontant différentes méthodes et modes de pensée, comme vous l'illustriez. Et enfin, c'est aussi une pratique qui devient plus collaborative et ouverte aujourd'hui, si je comprends bien.
Exactement. Et on verra dans la suite certainement de nos échanges qu'elle a en fait toujours été collaborative, mais que les formes de la collaboration se renouvellent.
Entendu. Alors justement, parmi ces innovateurs, on trouve Dassault Systèmes. Aujourd'hui, en tant que directeur de l'innovation, Frédéric Vacher, vous supervisez une initiative bien particulière qui est en quelque sorte l'un des porte-étendards de l'entreprise et fait écho au thème d'aujourd'hui. Il s'agit du 3D Experience Lab. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus à ce sujet et nous expliquer quelles ont été les motivations derrière sa création ?
Oui, Dassault Systèmes, en fait, c'est une entreprise qui innove depuis le premier jour puisqu'on permet, avec le numérique, avec les représentations 3D, de concevoir un jumeau numérique. Et donc on sert l'industrie depuis longtemps. En ce qui concerne le 3D Experience Lab, c'est une initiative qui a été créée depuis 5 ans avec un paradigme nouveau qui place l'homme au centre afin de faire levier sur l'intelligence collective et sur l'innovation ouverte. Donc faire appel à un écosystème extérieur à l'entreprise et être en capacité de l'accompagner avec des savoirs, des mentors qui font partie de l'entreprise. Plutôt que de dire on va créer une organisation avec un boss qui va s'occuper de l'innovation, l'initiative a été de dire on est tous innovateurs et on va faire appel à l'ensemble des volontaires dans l'entreprise qui cherchent à soutenir de l'innovation. Suivant trois grands critères, d'accompagner des innovations qui ont un fort impact société. Deuxième critère fort, c'est une innovation de rupture et donc prendre des risques, d'essayer des champs nouveaux. Et le troisième critère, des projets collaboratifs ou communautaires. Et donc du coup, une plateforme telle que la nôtre sur le cloud va permettre de faire travailler ces gens ensemble avec des paradigmes nouveaux. Et donc, on a expérimenté il y a 5 ans ces nouvelles méthodologies qui, aujourd'hui, commencent à faire leurs preuves.
Est-ce que vous pourriez également nous dire quelques mots au sujet du musée de l'innovation monté dans le cadre du 3D Experience Lab ?
Comme on accompagne l'ensemble de ces projets dans un monde numérique, on est en capacité de réunir ces projets dans un espace virtuel. C'est un projet qu'on a initié il y a 3 ans. Donc, soit vous avez un casque et donc vous êtes en immersion totale et vous vous promenez, soit vous suivez les yeux de la personne qui a ce casque et donc en ligne, hein, sur une plateforme de vidéo streaming, vous allez pouvoir finalement visiter à travers les yeux de la personne ce qu'on faisait traditionnellement. Et bien là, on est en capacité de faire des visites virtuelles dans un espace d'innovation qui sera disponible partout dans le monde à travers le cloud et qui sera disponible non seulement aux salariés de Dassault Systèmes ou nos partenaires, mais nous espérons partager cette innovation à un plus grand nombre auprès du grand public.
C'est important, hein, cette notion d'apporter l'innovation auprès du grand public et de l'aider à comprendre la démarche qui la sous-tend. D'ailleurs, Gilles Garel, il y a quelques années, vous aviez vous-même, avec votre collègue Loïc Petit-Girard, exploré le concept d'exposition virtuelle axée autour de l'innovation. Vous avez également structuré un MOOC baptisé Fabriquer l'innovation, et notamment l'innovation de rupture, destiné à des publics divers issus du monde entier. Pourquoi se former au processus même d'innovation est devenu important ?
De façon générale, on a besoin de se former tout le temps, surtout. Alors aujourd'hui, pourquoi se former à l'innovation ? D'abord parce que finalement, si on en parle beaucoup, on est peu formé à l'innovation. Justement parce que comme tout le monde en parle, il faut être capable de clarifier les approches et à partir de là de clarifier les méthodes. Il y a une grande variété d'objets, il y a une grande variété d'entrées dans l'innovation. Et puis enfin parce que une fois qu'on est formé, une fois qu'on a quelques repères, on a compris et on peut fabriquer. Donc la formation, elle participe de la compréhension et de la possibilité d'engendrer l'innovation, donc de prendre en main son propre destin en traçant sa voie d'innovateur. Alors il y a un autre aspect dans votre question, vers le formateur. Les enseignants aujourd'hui doivent être des innovateurs pédagogiques. Et on a commencé à faire ça au sein du musée des arts et métiers, de manière à mobiliser les objets. Donc on l'a fait d'abord en physique, dans les espaces de collection. Et pour toucher plus de monde, on s'est tourné vers des expérimentations numériques. On a d'abord commencé par le MOOC que vous évoquiez, Emma. Après le MOOC, on s'est lancé dans le développement d'un jeu sérieux. Et puis, on est en train de travailler entre le Conservatoire National des Arts et Métiers et Dassault Systèmes. On veut construire des parcours de formation en innovant dans l'univers du numérique pour mieux former à l'innovation.
Non seulement dans l'univers du numérique, mais aussi dans le domaine médical. Comme vous l'évoquiez, Frédéric Vacher, l'année 2020 a été marquée par la pandémie de Covid, qui a sévèrement mis à l'épreuve nos systèmes actuels, mais qui a aussi souligné l'importance de la recherche et de l'innovation ouverte. On a vu des entreprises et des citoyens se rassembler afin de répondre en urgence aux besoins de la crise. Et du côté de Dassault Systèmes, c'est une plateforme entière, Open Covid, qui a été conçue pour faciliter les échanges entre les scientifiques, les designers, les ingénieurs et les établissements hospitaliers. Est-ce que vous pourriez nous offrir quelques illustrations de ce que cette initiative a permis d'apporter concrètement, Frédéric ?
Oui, alors c'est une communauté ouverte et gratuite, ouverte à tous, makers, ingénieurs, scientifiques, qui cherchaient à apporter des solutions et apporter leur aide face à la pandémie. Il y a un an, beaucoup de questions restaient en suspens. Comment se protéger ? Est-ce que le virus se propage dans l'air ? Ce qu'on a identifié en utilisant nos outils de data intelligence, c'est que il y avait un certain nombre de manques, comme les respirateurs par exemple, les masques, et chacun essayait de répondre à ces problématiques, à ces manques dans son coin, et donc tombait sur les mêmes écueils, refaisait en fait un certain nombre de choses qui avaient été déjà faites. Donc cette initiative, l'idée c'était de rassembler les gens, de les faire travailler ensemble. Nous avons accompagné environ 150 projets, à peu près 25 respirateurs ont été conçus et certains industrialisés, comme au Mexique, où l'équipement médical a été certifié par le président. Et donc, à travers le cloud, ces personnes de toute nationalité ont pu se réunir en communauté et travailler ensemble. Et l'exemple indien est intéressant, puisque en l'espace de 8 jours, ils sont arrivés à concevoir, simuler et prototyper un respirateur d'urgence. C'est une prouesse remarquable. Il a été en fait ensuite industrialisé et le temps de certification par les différentes instances a été infiniment plus long. Cet univers des makers a pris le relais de l'industrie qui était l'arrêt, hein, les usines étaient fermées, et la position finalement d'Assosystème et sa légitimité, ça a été d'intermédier entre guillemets la communauté des ingénieurs, des professionnels, des makers qui avaient peut-être un peu moins de savoir industriel, et donc la connexion entre les deux mondes a permis de réaliser des projets, un transfert des savoirs extrêmement rapide.
Justement, au sujet des makers que vous évoquiez, on observe depuis le début des années 2000 un florissement des startups, mais aussi des Fab Labs et des incubateurs. Gilles, est-ce que vous pourriez nous donner une définition de ces nouvelles structures collaboratives et nous dire comment elles impactent nos pratiques et l'évolution de l'innovation ?
Alors, de travailler avec les historiens m'a conduit à remonter aux origines des notions. Et donc, je me permettrai de rappeler d'abord que la notion de startup, elle date pas d'aujourd'hui. Au début du 19e siècle, le célèbre Jean-Baptiste Sec était le premier théoricien de l'entrepreneuriat. On ne parlait pas encore de start-up, mais on parle de start-up aux États-Unis depuis les années 20, avec une explosion du vocabulaire milieu des années 70. Bon, donc c'est ancien. Alors, par ailleurs, il y a une floraison d'un autre vocabulaire autour de ce qu'on appelle les espaces collaboratifs d'innovation. On parle de tiers-lieux d'innovation, on a parlé là à l'instant de Fab Lab, on parle d'e-lab, de laboratoire d'innovation ouverte. Bon, on s'y retrouve pas vraiment. On peut en fait distinguer trois types de lieux. D'abord, les espaces de travail partagé, dont l'idéal type est l'espace de coworking. Ensuite, il y a les espaces de conception et de fabrication, comme les Fab Labs, et puis on a des espaces d'accélération, des espaces de développement entrepreneurial du type incubateur. Et je vous invite à visiter ces espaces d'innovation lorsqu'ils sont accessibles.
Ces évolutions, on l'a dit, elles bénéficient aux citoyens, aux inventeurs, aux jeunes entrepreneurs, mais ne l'oublions pas, elles modifient également en profondeur le domaine de l'industrie. Jusque dans les années 70, les entreprises vivaient dans des mondes d'innovation fermés, mais aujourd'hui, elles ont besoin de s'ouvrir pour continuer d'innover avec succès. Comment, de nos jours, est-ce que l'industrie s'adapte et intègre cette nouvelle culture de l'innovation, selon vous ?
C'est vrai que en fonction déjà des domaines industriels, les problématiques sont pas forcément les mêmes. Si on prend un exemple actuel avec les industries pharmaceutiques, on voit que maintenant l'invention de nouvelles molécules apparaît souvent dans des petites structures, dans des startups, dans des biotech, et que les grandes entreprises du coup font des partenariats assez rapidement avec elles. Et donc, en fait, on voit finalement une relation qui est très saine entre une petite structure agile qui invente et une structure importante qui va mettre à l'échelle.
Je partage entièrement les propos de Frédéric. Quand on regarde l'histoire de l'innovation, il n'y a jamais eu d'innovation fermée. Par contre, ce qui change, c'est la nature des relations et les modes d'entrée en contact se sont démocratisés. Dans votre question, Emma, il y avait un aspect sur la culture de l'innovation dans l'industrie. L'industrie, elle se métamorphose, elle innove en permanence, elle se transforme. On en a donné plein d'indices dans la discussion. Alors, il y a évidemment les indices numériques. On a aussi, évidemment, les problématiques qu'on a évoquées autour de l'éco-responsabilité, de l'économie circulaire. Et puis, enfin, ce qui bouge dans l'industrie est lié à la nature de l'industrie, c'est-à-dire à l'échelle. Les grandes entreprises, contrairement aux startups, elles ont une capacité à modifier ou à créer des écosystèmes en leur faveur. En France, en Loire-Atlantique, des chantiers navals se sont révolutionnés il y a quelques années par une transformation complète de leur conception industrielle. Ils sont passés à la modularité. On construit des paquebots en moins de 2 ans grâce à une conception modulaire. Et on voit bien que c'est en raisonnant à l'échelle de l'écosystème qu'on engendre l'innovation. Les grandes entreprises industrielles ont cette capacité d'une vision large. Il faut qu'elles en tirent parti.
Et finalement, le numérique a toujours été un liant dans ces transformations et un accélérateur de performance et d'innovation. Il y a encore quelques années, un vaccin se concevait en années, voire en dizaines d'années. Aujourd'hui, un an a suffi. Alors évidemment, il y a eu une mobilisation mondiale, mais ces entreprises, hein, si je cite Moderna, utilisent des plateformes numériques dans la conception, la simulation, les tests cliniques, ce qui permet de transformer complètement l'approche et les performances.
Frédéric évoquait le mentorat, les nouvelles formes d'organisation. Je pense qu'il ne faut absolument pas, dans ces évocations industrielles de l'innovation, déshumaniser le rapport à l'innovation. Plus on a de moyens à notre disposition d'innover, plus on doit s'interroger sur les formes de gouvernance, sur la manière d'accompagner, de gérer les équipes, de travailler ensemble. Et ça a une énorme conséquence sur la façon dont on enseigne ou dont on devrait enseigner le management.
C'est certain que le management, les méthodologies de fonctionnement s'adaptent et se transforment. Quelqu'un va poster une idée et on va faire interagir la communauté pour que chacun apporte sa contribution, challenge l'idée, la questionne, apporte des idées nouvelles. Et donc cette réflexion collective, c'est extrêmement performant et surtout motivant pour les individus, puisqu'ils sont tous reconnus en tant que contributeurs.
Et les tiers-lieux, les espaces collaboratifs d'innovation dont on parlait tout à l'heure, participent de ces échanges communautaires. Et donc on voit que dans le monde virtuel ou dans le monde réel, la force d'échange dans une communauté réunie, elle accélère le processus d'innovation.
Du coup, ma question c'est, est-ce que d'une certaine façon, on pourrait dire que les citoyens agissent comme la locomotive, le moteur de l'innovation et dessinent l'évolution de ces pratiques, ou est-ce que l'influence entre le milieu, disons, civil et l'industrie est mutuelle selon vous ?
Chronologiquement, le mouvement des makers émerge hors de l'industrie, l'industrie va s'en emparer et ensuite il va y avoir une dynamique. Si on regarde les communautés qui sont à l'origine du développement de la micro-informatique, elles émergent d'abord dans les universités américaines et progressivement on a des entreprises qui vont s'y intéresser et puis on a même des entreprises comme Microsoft qui vont émerger de ces communautés et qui vont devenir les leaders que nous connaissons.
Et les crises accélèrent, je pense. La particularité des makers, ce sont des gens qui vont être activés par passion. Mais pendant la pandémie, pendant le Covid, ça a dépassé le phénomène de passion, puisqu'il y avait la vie et la mort de certaines personnes en face. Et je pense qu'effectivement, c'était un vrai catalyseur. Ce milieu qui était assez, je dirais pas un monde parallèle, mais qui n'était pas finalement connu de tous, s'est vraiment révélé au grand jour comme une alternative au modèle industriel, puisque le modèle industriel était arrêté par force de confinement. Dans les Fab Labs, on pouvait continuer à faire des choses qui rendent un vrai service.
Tout à fait. Ce qui est intéressant dans cette approche maker, c'est qu'on fait, on accélère le processus d'innovation par la capacité à engendrer vite. Le mouvement maker, il nous donne du tangible, il nous donne des choses à discuter, des choses pour rebondir, pour avoir des controverses et pour avancer dans la voie de l'innovation.
C'est très juste, c'est très juste.
Ce que nous avons démontré au cours de ce podcast, c'est que l'innovation nous touche tous et qu'on peut aussi agir comme moteur en tant que citoyen pour aider la société à avancer. Certains de nos auditeurs et auditrices vont donc peut-être se demander comment ils peuvent prendre une part plus active à ce mouvement pour dessiner un avenir qui correspond à leurs attentes. Quelles seraient vos recommandations à ceux et celles qui souhaitent mieux comprendre ces évolutions et faire entendre leur voix citoyenne, Gilles et Frédéric ?
Je poursuis. Moi, j'ai envie d'inviter les auditeurs au voyage. D'abord au sens propre, c'est-à-dire aller, par exemple, dans ces tiers-lieux qu'on évoque, dans le Fab Lab de son quartier, aller à l'étranger, visiter les lieux de la conception, les usines, les endroits où se pratique l'innovation ouverte. Aller à la rencontre des communautés. Il y a aussi un voyage dans le monde des idées, de la créativité, des concepts, c'est-à-dire tout ce qui permet de développer son aptitude à engendrer des idées nouvelles. C'est indispensable, c'est l'un des piliers de l'innovation. Et puis il y a un dernier voyage auquel j'espère participer avec plein de collègues, qui est le voyage dans les connaissances. Il n'y a pas que la formation pour acquérir des connaissances, mais si les idées sont l'un des piliers de l'innovation, les connaissances en sont un second absolument déterminant, parce que si on n'a que des idées, on ne progresse pas, on n'enclenche pas dans la réalisation concrète. Donc il faut bouger. Aucun innovateur n'est resté focalisé sur une idée dans son garage avec les connaissances initiales qu'il avait.
Oui, il faut être curieux. Comme vous le savez, quand vous pensez à vous avoir une idée géniale, à un instant T, il y a une dizaine de personnes dans le monde qui ont la même idée. Donc le sujet, c'est comment passer de l'idée à la réalisation. Donc moi, j'invite les auditeurs à aller dans On parle de voyage, j'aime bien ce terme, en fonction de ses passions. Et on le voit bien avec les jeunes générations, quand elles cherchent un emploi, elles cherchent plus un emploi pour le salaire juste, ce qui était souvent le cas il y a 30, 40 ans. Là, je pense qu'il y a une volonté de s'émanciper à partir de ses passions, à partir de sa contribution sociétale. Hein. C'est comment faire en sorte que notre planète soit plus vivable et avoir un job en cohérence avec ça.
Donc la première étape, vous l'aurez bien compris, c'est avant tout d'explorer, de rencontrer, de vous intéresser à ce domaine foisonnant et fascinant qu'est l'innovation avant, on vous le souhaite, d'y apporter vos premières contributions et qui sait peut-être devenir le Léonard de Vinci de demain. L'innovation nous concerne tous, vous l'avez entendu, et nous pouvons tous y participer. Et je remercie infiniment Gilles Garel et Frédéric Vacher de s'être joints à nous aujourd'hui pour ouvrir cet horizon et nous le rendre un peu plus clair. C'est la fin de ce premier épisode d'Open Impact. Nous nous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, partagez vos commentaires et vos notes sur vos applications audio préférées et abonnez-vous pour découvrir nos autres formats et ne plus manquer un seul épisode. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt.